amateur, propagande.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Le journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour, vous êtes sur Radio Canu 102.2, c'est le théâtre de la Gamelle, l'émission de théâtre radiophonique aujourd'hui, un vendredi sur deux, votre émission de théâtre radiophonique. Donc, et nous sommes aujourd'hui avec la compagnie L'une et l'autre pour une carte blanche, c'est Sarah à l'antenne, on a Camille dans les studios.
Bonjour.
Malvina Minier.
Bonjour.
Clémence Zakiri.
Bonjour.
Et Camille Varenne, j'ai pas dit ton nom d'abord.
Oui, s'il te plaît, merci.
C'est à vous les studios.
Alors, on voulait commencer cette émission par une petite présentation de la compagnie L'une et l'autre, dont on fait toute partie. La compagnie L'une et l'autre, elle a été fondée en 2017 à l'issue d'une formation à l'Université Lyon 2. On était quatre étudiantes à avoir monté un projet de fin d'études et à l'issue de ce projet-là, on a monté la compagnie dans laquelle se retrouvent investis plusieurs artistes au fil des créations. Ce qui représente un petit peu l'ADN de la compagnie, c'est le fait de ne mettre en scène que des spectacles et des textes qui ont été écrits au sein de la compagnie par les différents artistes qui sont investis sur les créations. Et d'essayer de proposer des spectacles en dehors des lieux qui sont habituellement dévolus au théâtre. Alors on ne fait pas que ça, on a aussi pas mal de propositions en boîte noire, mais on a aussi tout un axe où on cherche à travailler un petit peu du théâtre paysage, ou du moins du théâtre qui s'adapte aux différents lieux qui l'accueillent. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des propositions en espace public, des propositions dans les lieux plus intimistes comme des phares ou des musées. Et puis l'idée, c'est d'essayer de trouver comment artistiquement on donne à vivre et à ressentir ces lieux-là. Une dernière chose qui caractérise un petit peu le travail de la compagnie, c'est le fait de proposer des créations qui ménagent une véritable place aux spectateurs au sein de la représentation. C'est pas le cas sur tous les spectacles, mais on essaye de travailler à inventer des formes participatives. On a notamment un spectacle qui est un spectacle atelier d'écriture et qui repose vraiment sur la participation du public.
Et je rebondis parce que l'autre pilier de la compagnie, c'est les ateliers qui viennent vraiment compléter l'ADN, comme disait Malvina. En gros, sur quasiment tous nos projets de spectacle, on a à chaque fois des ateliers qui viennent s'arrimer à l'univers de la pièce qu'on va traiter. Donc tout va s'adapter, c'est-à-dire que selon les publics, selon les lieux où on intervient, on aura un parcours d'atelier qui s'adapte selon le spectacle auquel on a envie d'arrimer les ateliers. On propose des parcours immersifs où on va vraiment plonger les participants et les participantes de nos ateliers dans l'univers de la pièce qui est traitée à ce moment-là. Par exemple, on a un gros projet de territoire, donc ça c'est ce qui caractérise le plus, on va dire, ce travail de parcours d'atelier en lien avec les spectacles. C'est le projet Zone Bleue, qui est véritablement un projet de médiation culturelle qui a lieu sur le quartier des Minguettes à Vénissieux. Et c'est un projet qui s'arrime à la pièce La Déferle, dont on va vous parler en fait aujourd'hui tout au long de l'émission. Et donc c'est un projet de médiation, c'est une résidence au long cours, on a vraiment un appartement, un local en pied d'immeuble, dans lequel on va venir recréer avec les habitants et les habitantes tous les espaces scéniques qu'on développe dans la pièce de théâtre La Déferle, dont on vous parlera un petit peu mieux. Et en plus de recréer ces espaces scéniques, on vient proposer aux habitants et aux habitantes des ateliers de théâtre, des ateliers d'écriture et même quelques ateliers de scénographie. On vient enregistrer avec les gamins du quartier des pistes sonores qui vont venir alimenter aussi nous notre travail artistique en plus de ça. Et du coup voilà, c'est un grand projet de résidence artistique et de médiation culturelle, ce qui fait qu'on noue vraiment nos deux casquettes, nos deux piliers de la compagnie au sein de ce projet qui s'appelle Zone Bleue. Et donc ça s'arrime à la pièce de théâtre La Déferle pour le coup.
Et La Déferle, donc c'est la pièce dont on voulait vous parler aujourd'hui. Donc cette aventure autour de ce spectacle, elle a commencé en 2017, au moment où en fait où la compagnie s'est créée. On était Camille et moi-même en cours avec une professeure qui s'appelait Bérénice Amidikim dans le cadre d'un séminaire sur les dystopies au théâtre. On avait eu plusieurs exercices à faire. Pour imaginer des projets à la fois de médiation et à la fois de création. Et c'est de là qu'a germé La Déferle. Ensuite, on a passé une année à écrire le texte du spectacle. Et puis, on a eu la chance d'être accueillis en résidence dans une maison phare à l'île Vrac. Donc, c'était un contexte très, très particulier parce qu'en fait, on était sur ce qu'on appelle une île maréale, c'est-à-dire une île qui est entourée d'eau pendant un certain temps et puis qui, à marée basse, est accessible à pied. Et sur cette toute petite île maréale dont on pouvait faire le tour en 20 minutes, il y avait juste une maison phare dans laquelle on était accueillis en résidence. On était les seuls à pouvoir dormir dans des conditions assez particulières. Et donc voilà, c'est une île qui accueille régulièrement des artistes. Et donc on s'est retrouvés vraiment isolés, entre guillemets, pendant une dizaine de jours à répéter ce qui était en fait la première partie de la pièce La Déferle. Camille et moi, on avait travaillé en tandem toutes les deux sur une première partie de texte. Et puis c'était aussi le moment où on l'a ouvert et on l'a abordé avec deux comédiennes, donc avec Clémence qui est avec nous et puis Sarah aussi. On l'a travaillé, on a répété cette première partie de la pièce, on a esquissé un peu des pistes pour la suite. Et puis ensuite, on est reparti travailler en région lyonnaise. On a été accueillis en pied d'immeuble dans plusieurs locaux, à la fois à Vénissieux, dans les locaux dont parlait Camille tout à l'heure, qui nous accueille en résidence, mais également dans d'autres locaux en pied d'immeuble à Gorges-de-Loup. Et c'est vrai que ces résidences ont beaucoup nourri le travail de création, parce que ce soit à l'île Vrac ou alors en pied d'immeuble, en fait, on s'est toujours retrouvés dans des lieux où la question de l'habitat collectif ou le fait de partager un espace de vie était très forte. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver après dans la pièce, et c'était vraiment différent du fait d'être accueilli dans un théâtre. Et puis finalement, on a eu la chance également d'être accueillis à la MJC Pôle 9 à Lyon. Et là, on a commencé un petit peu à clôturer la mise en scène du spectacle complet et puis à mettre en lumière le spectacle, puisque on a un spectacle qui repose vraiment sur un univers. On est sur une dystopie, et donc cet univers-là, on va permettre au public de s'y immerger grâce à une lumière particulière qui dessine différents espaces, qui nous plonge dans des ambiances très précises, grâce à une scénographie qui nous immerge dans ce monde-là, et puis enfin à des créations et à des pistes sonores qui ont été réalisées pour le spectacle.
Et on voulait dire un mot de l'interprète de ces pistes sonores, c'est Clément Laborie. Il est interprète, compositeur, il est musicien assez incroyable. Il a récemment lancé son groupe, le Labo Live Band. Je vous conseille vivement d'aller écouter sur YouTube, c'est vraiment chouette, et de le suivre sur Facebook autant que vous pouvez. Et c'est avec lui qu'on a bossé du coup sur toutes les ambiances sonores de la pièce que vous allez avoir la chance de découvrir tout au long de l'émission. On va voilà vous faire partager un petit peu toutes ces ambiances sonores. Et là, je pense qu'on vous a suffisamment teasé. Il est quand même temps de vous dévoiler le synopsis de la pièce de théâtre. Donc, La Déferle, c'est une pièce tout public, qu'on situe plutôt à partir de 10 ans, qui met en scène une bande de mômes qui vivent en joyeuse colocation dans une étrange baraque un peu biscornue, une sorte de ruine qui s'appelle la Mézone. C'est une fiction et dans cette fiction, la société telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe plus. Ce n'est plus qu'un repère historique, une civilisation ancienne dont il reste des petits fragments, des traces, des sortes de reliques auxquelles vont s'accrocher les personnages pour tenter de comprendre ce qui leur arrive. Dans la Mézone, cet univers, c'est vraiment le vestige d'une catastrophe climatique que les habitants et les habitantes de la Mézone ont oublié. Ils se retrouvent un peu échoués dans un monde qui n'est pas utopique, qui n'est pas dystopique à proprement parler non plus. La Mézone, c'est un espace de rêverie hors du temps. Et nos personnages sont des personnages, on vous en parlera plus longuement, qui n'ont plus de genre, qui n'ont plus d'âge, ou en tout cas qui ne se définissent pas avec ces catégories sociales. Et tout de suite, bienvenue à la Mézone.
Alors, dans la Mézone, donc là, vous venez d'entendre un petit peu l'ambiance générale de la Mézone, tous les sons et le capharnaüm qu'on entend quand on entre dans cette grande baraque où tous les mômes vivent en joyeuse colocation. Et donc, dans cette Mézone, on a trois étages. Et ce qu'on vous propose au fil de cette émission, c'est de découvrir ces trois étages, de vous y immerger à la fois par des lectures de textes et aussi par des pistes sonores qui seront diffusées. Donc dans le premier étage dans lequel on aimerait vous emmener, il s'appelle la soupente. En fait, c'est l'étage qui est tout en haut de la Mézone, sous les toits. C'est une sorte de grenier qui a été réaménagé un petit peu en dortoir. Donc c'est là que les mômes font leur sieste. Pour vous décrire un petit peu cet espace, c'est un endroit où vous avez une grande verrière avec des vitres un peu cassées, un peu brisées. Par lesquels les vents se faufilent. C'est à la fois le lieu des confidences et des batailles de polochons et c'est le lieu où les mômes se retrouvent donc pour leur sieste. On vous laisse le découvrir.
Fridam n'a pas rêvé. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas un rêve. Fridam ne sait pas ce que c'est que la nuit. Ensemble, on l'a lu dans les livres. On a trouvé les galaxies du mi-temps, étudié toutes les cartes stellaires. On a voulu regarder les étoiles. C'est pas Cole et des fondations, l'école n'a pas de fenêtre. Même moi qui suis de la soupente avec mon toit de verre, qu'est-ce que j'en sais? J'ai regardé longtemps et j'ai cherché à ce que la nuit tombe. Traqué tous les signes de l'aube. Le blême, je le vois bien. Ça se nuance de craie, de quelques voiles de sambre, mais c'est un jour immense qui jamais ne se couche. Il y a eu parfois cette ambre un peu plus grande, un peu plus brille, tout de diffus dans le lointain de l'horizon. Soudain, tu vois que quelque chose a changé. Peut-être que c'était la nuit, mais t'en es pas complètement sûr. Nous sommes d'imperceptibles crépuscules. Dans la maison, le temps passe sans mesure. On ne peut plus se saisir d'aucun rythme des jours et des lunes. Bien sûr qu'on n'arrive plus à dormir. Enfin, Joke a encore rêvé.
On vient de rencontrer un premier personnage de la pièce qui s'appelle Emily, qui est interprétée par Sarah dans le spectacle. Emily donc passe beaucoup de temps dans la soupente. On a dans la pièce des mômes qui ont tendance à avoir des étages de prédilection, c'est-à-dire qu'ils préfèrent rester dans certains étages où de fait ils s'y retrouvent le plus en plus souvent. Et donc Emily fait partie des mômes qui aiment rester dans la soupente. Et Emily nous a introduit une particularité du monde dans lequel nous avons situé la déferle et qui va avoir beaucoup de conséquences sur la suite et sur ce que vivent et traversent les mômes dans la pièce. En effet, dans le monde de la déferle, la nuit a disparu. Le ciel est toujours blanc et on est toujours c'est toujours le jour. Et les mômes ont entendu parler de la nuit, l'ont lu dans les livres, savent que ça existe, mais n'en retrouvent plus la trace dans leur monde. Et le fait qu'il n'y ait pas de nuit dans ce monde-là va impliquer plusieurs dysfonctionnements et auxquels Emily va tenter de pallier ou de répondre en utilisant en mettant en place plusieurs rituels, en se construisant un petit peu des attributs. Et en effet, sur scène, Emily, elle apparaît souvent avec un attrape-rêve qui est un objet qu'elle a mis en place, Cole a mis en place pour se constituer un petit peu des repères temporels, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de nuit qui tombe pour un petit peu jalonner le quotidien des mômes, on a des mômes qui font des siestes de façon un peu anarchique, mais on n'a pas du tout une constitution en journée comme nous on peut la connaître dans notre monde. Et donc Emily va ressentir le besoin d'essayer de fixer un petit peu des repères temporels qui sont liés aux événements importants qui vont marquer la maison. Et en complément de cet objet, sur cet objet, très concrètement, une perle va correspondre à un événement important qui a marqué la maison. Et puis, en complément de cet objet, donc, elle va avoir un autre objet qui est un carnet. Un carnet dans lequel Hall note tous les rêves que les mômes lui racontent, dans lequel Hall note aussi ses propres rêves. Régulièrement, Emily parcourt la maison pour aller rencontrer les différents mômes et essayer de voir qui a rêvé de quoi, et puis noter le plus précisément ce que chacun et chacune a vu en rêve. Et cet objet va lui permettre d'identifier un certain nombre de particularités au sein de ce que vivent les mômes de la déferle. D'une part, elle va se rendre compte qu'il y a des mômes qui confondent en réalité leurs rêves et leurs souvenirs. Et donc la question du temps un petit peu brouillé et d'un écroulement des repères temporels va se répertorier jusque-là, puisqu'on va avoir des personnages qui sont dans un certain présentisme, qui vivent le présent très fort et qui n'arrivent pas toujours à distinguer ce qu'ils ont vraiment vécu de ce qu'ils ont vécu en rêve, et qui n'arrivent pas à distinguer des images mentales qui sont dans leur esprit entre le rêve et le souvenir. Hall va également récolter des rêves, bien sûr, et finalement dans le spectacle, ce qu'on constate, c'est que les rêves des mômes sont très proches de notre réalité à nous aujourd'hui en 2022, ou que ce qu'on peut entendre des rêves des mômes ressemble peut-être plutôt à ce qui pourrait être le passé de ce monde-là. Et puis enfin, Emily va se rendre compte qu'il y a des mômes dans ce monde-là qui ne dorment plus. Et c'est notamment un constat qui va beaucoup l'inquiéter. Et finalement, ce qu'on constate dans la pièce, c'est que l'écroulement des repères temporels va avoir vraiment des conséquences réelles sur la façon dont les mômes s'organisent entre eux, puisque sans repères temporels, c'est même la frontière entre réel et fictionnel et rêve qui est brouillée. Et puis ça va impliquer énormément de choses aussi sur la notion de mémoire, puisqu'on a des mômes qui vont être incapables d'identifier les dysfonctionnements de la maison, de prendre conscience qu'il y a des événements qui se répètent tout le temps et que peut-être que c'est lié à certaines problématiques. Et donc on va être face à des mômes qui vivent, comme on le disait tout à l'heure, le présent très très fort, mais qui ont un rapport très très particulier à la mémoire et à l'oubli.
Et on vous propose d'aller voir un nouvel étage de la maison. On va aller à l'extrême sud de notre maison. On va tout en bas dans les fondations. Alors les fondations, c'est une sorte de cave. Voilà, si la soupente c'est le grenier, les fondations ce serait la cave. C'est un espace très sombre, un espace très humide. C'est l'espace où tout se joue en termes de tuyauterie, ça goutte dans tous les sens, c'est là où les mômes viennent faire leur grande lessive. C'est un espace, c'est un espace d'eau et qui est caractérisé à la fois par son côté ludique, c'est un espace qui va être un espace de jeu, beaucoup, où on va retrouver les mômes pour des batailles d'eau, mais c'est aussi un espace très inquiétant, où tout résonne énormément, c'est très très sombre, c'est très vaste, donc on peut se retrouver à 10-15 mômes dans cet espace des fondations, et pourtant ne jamais se croiser, ne pas savoir qui est là, ne pas reconnaître les visages aussi, c'est tout à fait possible. Et là, je vais vous laisser en présence de plusieurs de ces mômes, justement, au cœur d'une bataille d'eau ou d'une inondation, on ne sait pas bien, avec les personnages de Joke et d'Emali, qui sont tous deux interprétés par Sarah, avec une môme, qui sera interprétée par Clémence, et avec Freedom, interprétée par moi-même. C'est la grande marée!
Par ici, ça gicle!
À l'abordage!
Hé, c'est pas le moment! Arrêtez de rigoler!
Alors, qu'est-ce qui se passe? Un petit brin de rafistole et c'est fini!
C'est trop vétuste, tout cet équipement!
Un bidon d'eau, deux bidons d'eau, trois bidons, quatre bidons, cinq bidons d'eau, six bidons d'eau,
sept bidons d'eau, huit bidons, neuf bidons d'eau!
Oh, attendez, je viens de penser à quelque chose! Joke, reviens! Dans les images thermographiques en fausse couleur, le bleu dénote invariablement le froid, comme sur la robinetterie domestique, la pastille bleue indique l'eau froide.
Joke, tu crois vraiment que c'est le moment?
Mais si! Montre voir ta frontale, je veux voir la pastille bleue.
Rends-moi ma lampe.
Et Joke?
Quoi?
Oh la rose.
Arrête!
Mais Freedom, tu vas me casser mes lunettes!
Freedom!
Oui?
Tu vas voir ce que tu vas voir.
Au secours!
Et c'est pas fini, prends ça!
Myson? Myson, tu es là?
Et Mali, tu viens jouer avec nous pour la grande marade?
Non, je cherche Myson. Où est Myson?
Par ici, ça gicle!
Attendez! Myson!
À l'abordage! Et les mômes, revenez! Ça flotte encore, on va bien se marrer!
Myson! Les mômes! Je crois que Myson est parti.
Et Mali, viens voir.
Freedom, faut vraiment qu'on...
La rose.
Freedom.
Aux fondations.
Oh, j'arrête de jouer.
Voilà, alors ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de cet espace des fondations. Et là, on a vraiment plein de personnages qui sont dans des problématiques un peu différentes et qui n'arrivent pas à se rencontrer. Et avec la déferle, on explore véritablement ce moment un peu flottant du collectif en gestation. Donc on va avoir plusieurs individualités qui semblent se construire toutes seules ou en réaction à autrui ou à l'extérieur, mais dans un mouvement, en tout cas au moment de la déferle, au moment de l'action, de la narration, dans un mouvement, dans une dynamique qui manque encore complètement en fluidité, en écoute. Et dans la déferle, on tente de faire exister sur la scène les prémices de ce collectif qu'on a défait des critères qui habituellement forment et organisent nos groupes sociaux actuels, c'est-à-dire notamment les critères d'âge et de genre. La suppression de ces critères, ça va venir déconstruire des hiérarchies et ça modifie tous les rapports d'autorité et de pouvoir. Du coup, on a nos mômes, les personnages de la déferle, qui évoluent dans une forme de collectif qui ne peut pas se définir par rapport à une tranche d'âge, par rapport à un genre. Il n'y a dans cette maison aucun système, aucune forme de gouvernance qui vient l'organiser. Alors du coup, tous nos personnages sont traversés d'une grande bienveillance envers les uns et les autres. Mais pour autant, on a des énormes dysfonctionnements au sein de leur maison. Leur maison part en ruine. Là, on a entendu les fondations. En fait, ce qui se passait au moment de ce que vous avez entendu avec la piste sonore et l'extrait de texte de la pièce, c'est qu'il y avait une inondation, il y avait une fuite. Et ça arrive très, très régulièrement. Les conduites explosent, les tuyaux pètent, ça coule dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose qui va grossir au sein de la pièce tout au long de la narration. On va avoir une montée des eaux à l'intérieur de la maison. Donc on est vraiment sur une forme de noyade qui prend de plus en plus d'ampleur. Et si ça prend toute cette ampleur-là, c'est aussi parce que les mômes sont incapables de se saisir collectivement des problèmes de la maison. Malvina, elle disait tout à l'heure, à cause de ce problème de mémoire, où on n'arrive pas à répertorier, à se souvenir des événements, à se rendre compte d'à quel point tel événement survient régulièrement ou non, on ne parvient pas non plus à se saisir des urgences collectivement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une conduite qui explose. Si ça arrive une fois, ok, c'est pas grave, on va mettre un petit bout de rafistole et puis c'est terminé. Mais en fait, ça arrive tout le temps. Et à aucun moment donné, dans la déferle, dans le texte qui est écrit, tel qu'on l'a pensé, imaginé, on a un temps de réflexion collective. On se dit, ok, mais là, en fait, les fondations, c'est vraiment la merde. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement? Et est-ce qu'il faut déménager, reconstruire quelque chose? Notre système d'eau chaude ne fonctionne plus du tout. Et puis, ça goûte dans tous les sens. Et voilà, et à un tel point que tout ça, ça leur tombe des mains, ils parviennent plus à réagir, et au fil de la pièce, on va avoir vraiment l'eau qui va commencer à monter jusque dans le mi-temps, et jusque dans la soupente, et tous les mômes qui pataugent. Et en fait, nos mômes, qui sont pourtant traversés de cette bienveillance, enfin, on les voit sur scène entre eux, ils essayent de communiquer, mais il y a quelque chose qui ne se rencontre pas. Chaque môme a véritablement sa façon de communiquer, en quelque sorte, à son mode de réaction par rapport aux autres mômes. Ils ont des outils qui leur sont propres et personnels. Malvina vous a parlé du personnage d'Emali, qui a son attrape-rêve et qui a son carnet. Mais en fait, ça, c'est propre uniquement à elle. Elle aurait pu décider de se dire « Ok, les mômes, maintenant, notre calendrier, c'est l'attrape-rêve. Que tout le monde tisse des petits attrape-rêves et puis comme ça, on aura des calendriers collectifs. » Mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Elle est sur son attrape-rêve et elle tente de faire quelque chose pour le collectif, mais elle parvient pas à transmettre le message. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la communication un peu basique qui est brisé au sein de la maison. Et le personnage de Frida est assez parlant et révélateur vis-à-vis de ça, parce que nos personnages n'ont pas de genre, mais pour nous, c'est pas évident de dire « all », qui est ce nouveau pronom neutre qu'on a inventé pour le bien de l'écriture. Mais souvent, vous nous entendez dire « il » ou « elle » en fonction des personnages. Mais en réalité, il faut essayer de se projeter dans un monde sans genre, ce qui n'est pas facile. Donc, Freedom, Hall. Hall est un môme, une môme, qui a cet élan vital, cette énergie enfantine en permanence à l'intérieur de lui. Hall adore faire des blagues. Hall fait des blagues en permanence à tous les autres mômes. Et du coup, on a l'impression, de prime abord, que c'est un personnage un petit peu, plus anecdotique, qui est là et qui ne prend pas au sérieux tout ce qui peut arriver au sein de la maison. Dès qu'il y a une inondation ou un événement qui semble un peu grave pour le collectif et pour la gestion de la maison, Freedom va prendre ça sur le ton de la blague. Et les inondations se transforment en bataille d'eau, notamment aussi un petit peu de son fait à lui. Pourtant, et on va le découvrir comme ça au fil de la pièce, c'est un personnage qui est en permanence dans l'empathie. Simplement, ses réactions ne sont pas exactement celles que l'on attendrait, nous, dans notre monde d'aujourd'hui, en 2022. Et elles sont même parfois, ou semblent être un peu contre-productives. Il va avoir sa façon de gérer le deuil, sa façon de gérer les catastrophes, qui fait qu'il met de la vie dans tout ça. Il met du rire, il met de l'enfance, et ça fait du bien. Et en même temps, ça passe pas avec tous les personnages parce que c'est pas possible que ça puisse passer quand il semblerait qu'il y ait des événements très très graves qui se passent et que Freedom est complètement sur autre chose. Et ben ça coince un peu. Et justement, en parlant de communication, on va tout de suite aller rencontrer d'autres personnages et aller faire un tour au mi-temps.
Alors, le mi-temps. Le mi-temps, c'est là, du coup, c'est entre la soupente et les fondations. Et le mi-temps, c'est une immense bibliothèque, cartothèque, où les mômes ont stocké toutes les cartes, tous les atlas qu'ils ont pu trouver. Donc moi, c'est un espace que j'imagine avec un petit peu comme les vieilles bibliothèques où on voit des grandes échelles pour monter et récupérer des livres. Tout est organisé un peu comme ils ont pu, parce que vu qu'ils n'ont pas la maîtrise de ces savoirs-là, ils ont parfois, sans doute, peut-être juste stocké les livres, mis les livres d'un côté qui était plus petit ou qui avait des pages plus épaisses, suivant le papier. Enfin, c'est pas forcément très structuré comme nous, on pourrait le faire. Mais voilà, une immense bibliothèque. Et il y a certaines mômes qui passent particulièrement du temps, et c'est le cas de Myson, qui est le personnage que j'interprète. Et Myson, du coup, son attribut, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'elle est omnibulée par le fait de ne pas arriver à faire de liens, de faire correspondre ce qu'elle lit dans les livres et sur les cartes, et de ne pas savoir du tout ni où Hall sont, ni quand ils sont. Et de pas du tout arriver à faire de lien entre les deux, ça l'obsède. On va vous faire découvrir du coup avec un extrait. Et dans cet extrait, Myson, c'est la première scène du spectacle. Elle vient de faire le tour d'horizon de la maison. Elle a tout parcouru, tout regardé, essayé de faire du lien. Elle y arrive plus et elle décide de quitter le limité, qui est l'espace qu'ils connaissent, que les mômes connaissent et qu'ils ne vont jamais dans l'horizon. Et c'est le moment où elle décide de ok, moi je pars dans l'horizon. Je n'ai pas trouvé de lien à faire ici. Je sais pas où je suis. Je sais pas où quand on est. J'arrive pas à comprendre. Donc je vais dans l'horizon. Donc voilà, c'est le prochain extrait qu'on découvre, où du coup il y a Myson et il y a aussi, on retrouve Emily qu'on a découvert déjà dans un extrait, dans le premier extrait. Au pourtour de la maison, le limité. Paf !
Myson !
Pas de gosse pour le dépasser, personne pour l'aventureuse.
Myson, ton rêve !
Je fais le rêve de m'évaporer.
Attends !
Je vais juste disparaître un peu.
Oui ?
Pour la maison, les cartes sont terminées, 1000 fois détaillées, rien d'oublié.
Tu as dormi ?
Tu vois le limité ?
Oui ?
Tu vois jusque-là ? Jamais personne n'a dépassé. C'est comme si plusieurs milliers de pierres nous mettent au pied du mur. Mais il n'y a rien. Et alors moi, ça bouillonne dans ma tête. J'ai le cerveau qui fume.
Mais Myson, je suis là pour ton rêve. Je dois savoir, tu as dormi ou pas ? Je n'écris pas n'importe quoi dans mon carnet. C'est ton sommeil que je cherche.
Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de portail. Pas de grillage. Rien que l'inexploré.
Myson !
Maintenant, faut dépasser. Franchir le limité. Entrer. Dans l'horizon.
Oh là 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 là, Myson, je connais bien tes précipices, tu sais bien, toutes tes trouvailles qui te vrillent la tête. Soudain, tu as la trace, tu pleures et tu ne sais plus où tu en es.
Et alors quoi ? Je reste ici ? Je ne peux plus tourner en rond.
Myson, écoute, tu ne peux pas partir.
On a eu du coup au sein de cet extrait une petite introduction d'un nouvel espace dont on vous a peut-être peu parlé qui s'appelle le limité. Donc en fait, autour de la maison, des trois étages qu'on vient de vous faire découvrir, il y a un petit jardin qu'on appelle le limité. Et comme le dit le personnage de Myson, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien qui empêche les mômes de dépasser ce petit jardin. Donc ce petit jardin, on voit qu'il est dessiné Parce que c'est simplement l'endroit où l'herbe pousse, et puis il y a un moment donné où l'herbe, sachant qu'on est sur une herbe très sèche, sur quelque chose qui n'est pas non plus complètement foisonnant et verdoyant, où ça va devenir de plus en plus clairsemé, et puis bon, là où il n'y a plus du tout de végétation, en fait, ça fait partie des zones que les mômes n'ont plus explorées. Donc on a un petit jardin dont les mômes ne sont jamais sortis, mais pas parce qu'effectivement quelque chose les en empêche, pas même une loi qui aurait été établie au sein du collectif, mais simplement par habitude. Et on a donc le personnage de Myson qui va vouloir franchir le limité, le dépasser, et puis entrer dans cette zone que les personnages ne connaissent pas et qu'on appelle l'horizon, dans laquelle a priori personne ne s'est aventuré, ou du moins personne n'en est revenu. C'est une zone qui est vraiment le lieu de tous les fantasmes, à la fois une zone qui peut attirer certains et certaines démons, mais qui peut également être complètement répulsive, terrifiante, faire peur. Et donc ces trois espaces, la maison, l'horizon et le limité, vont nous permettre dans la pièce de questionner des choses qui sont à la fois très intimes, qui peuvent nous renvoyer toutes et tous aux frontières qu'on n'ose pas dépasser, aux limites qu'on se pose à nous-mêmes, à toutes les frontières symboliques qui jalonnent un petit peu notre quotidien et notre expérience du monde, mais qui également, sur des projets de territoire comme ceux qu'on aborde à Vénissieux, dont on vous a parlé tout à l'heure, peuvent prendre énormément de sens, puisque quand on travaille sur un quartier comme les Minguettes, autour des questions de territoire posées dans la déferle, au sein de notre résidence zone bleue, ces questions de frontières symboliques, invisibles, qui découpent et dessinent nos espaces quotidiens vont devenir très très fortes. Donc voilà, c'était une problématique qui est très forte dans la pièce, et finalement le fait que une môme, en l'occurrence Myson, décide de quitter la maison est un véritable élément déclencheur de l'intrigue, et elle va être suivie par plusieurs personnages qui vont être amenés à quitter la maison également, et chaque départ va entre guillemets déstabiliser certains personnages, passer complètement inaperçu pour d'autres, mais en tout cas ça va être un enjeu important dans ce qui se passe dans l'intrigue, et pour les personnages qui le vivent ça peut être vraiment une aventure très très éprouvante. Plus scéniquement, plus théâtralement, ces espaces distincts entre la maison et l'horizon nous ont posé pas mal de questions scéniques. En fait, c'était un peu un défi de réussir à dessiner des espaces très différents. Et donc, on a, avec la lumière, avec la scénographie, essayé de travailler effectivement à la distinction entre la maison et l'horizon. Et toute la pièce se joue dans des allers-retours où on a des scènes qui se passent dans l'horizon et d'autres scènes qui se passent dans la maison, sur le principe de « pendant ce temps-là ». Il y a donc un deuxième personnage qui va s'aventurer dans l'horizon, qui s'appelle Joke et qui est joué par Sarah, et on va le retrouver tout de suite dans une petite scène, et puis Sarah va nous le présenter avant.
Et donc Joke est un personnage qui recherche et est obsédé par le bleu, qui ne trouve plus le bleu parce que les mômes ne voient plus les couleurs, où il n'y a plus de couleurs dans la maison, on ne sait pas trop. Peut-être que vous nous aiderez à résoudre ce mystère. Mais en attendant, Duke ne sait plus où est le bleu, comment voir le bleu, et le cherche partout. Et c'est en fouillant, farfouillant dans les livres et les définitions qu'il trouve qu'il cherche éperdument le bleu, et qu'il se coupe peu à peu des personnes autour de lui. Puisque même quand Freedom vient lui parler, tout ce qui l'intéresse, c'est de chercher à trouver ce bleu, jusqu'à partir dans l'horizon, sortir de la maison à la recherche de ce bleu. Et donc l'horizon, c'est la limite extérieure de la maison, c'est un peu l'inconnu, l'inexploré pour les mômes, peut-être là où ils auront des réponses à leurs questions, à cet inconnu qui se montre à eux. C'est le lointain, c'est aussi le vide, le grand désert blanc, le sable, c'est un univers qu'on peut imaginer post-apocalyptique dans un univers dystopique. Et c'est là-bas que Joke va chercher éperdument son bleu. Alors c'est ça, la mer. Pas de bleu mer. C'est tout du crayonné. C'est l'imposture. Bleu. Être tout bleu, en rester bleu, être figé d'étonnement, bleu de froid, de colère, d'émotion. Est-ce que tu me trouves bleu ?
Pas vraiment.
Même pas un petit peu ? Quelques reflets ?
Non, je ne crois pas.
Je cherche le bleu de la mer.
C'est droit devant.
Tu veux dire l'océan ?
Nous sommes sur le rivage.
Un temps. Joke s'élance vers la mer et Eloan rattrape son élan.
Hé, non ! Qu'est-ce que tu fais ?
Je veux goûter le bleu marine. Le bleu profond, intense et froid. Je veux vivre le bleu ardent, doux et limpide et toutes ses nuances. Je veux sentir le bleu de nos poèmes, le bleu tendre et profond. Je veux trouver le bleu foncé, je veux plonger dans la mer craie.
Attends, je...
Tu peux me garder mes lunettes ?
Et voilà, vous avez découvert le personnage de Joe, qui est son obsession pour le bleu, qui, comme l'a très bien dit Sarah, va le couper de plus en plus des mômes, essentiellement des mômes de la maison, jusqu'à l'amener à quitter la maison. Et là, vous avez découvert un nouveau personnage, Eloan. Eloan, sans trop vouloir spoiler l'intrigue de la pièce, Eloan vit dans l'horizon. Et Joke et Eloan, quand elles vont se rencontrer, c'est une forme de coup de cœur. Alors, certainement pas un coup de cœur amoureux, parce que voilà, c'est pas sur ce tableau-là que ça se joue, mais plutôt un coup de cœur de l'ordre de la recherche. On se retrouve avec deux personnages très obsessionnels, et surtout deux solitudes qui vont se rencontrer au sein de l'horizon, donc un univers qui voilà, post-apocalyptique, y a pas âme qui vive, c'est un univers plutôt très angoissant. Et on a ces deux personnages qui se rencontrent, et c'est une assez chouette rencontre. Et le personnage d'Eloan, pour vous en dire un peu plus, et puis pour aller plus loin aussi dans ce que c'est que cet horizon, ce lointain, cet inconnu, cet inexploré, le personnage d'Eloan s'est retrouvé dans l'horizon, on ne sait pas depuis combien de temps, et puis de toute façon, je ne peux pas vous donner d'indications temporelles, puisque ces indications n'existent plus dans leur monde. En tout cas, Eloan a eu le temps de se construire un labo dans une épave rejetée par la mer, puisque on apprend au fur et à mesure de la pièce que les mômes se trouvent sur une île. Et cette épave rejetée au bord de la mer, sur le rivage, devient un véritable laboratoire pour Eloan. Et si elle a besoin de se construire, si Hall a besoin de se construire un laboratoire, c'est pour étudier ce qu'elle imagine être une catastrophe imminente. Je vous propose de vous plonger dans le laboratoire, justement, et on découvrira une autre rencontre entre Eloan et Maison. C'est parti pour le labo. Ouvre le volet.
Waouh !
C'est là, la mer.
C'est si calme.
C'est de là que viendra la déferle.
Tu crois ? De cette surface lisse ?
En apparence, mais écoute.
J'entends rien.
avec les cliquetis de ton laboramètre, on croirait entendre notre tuyauterie qui se déboîte dans les fondations.
Mais c'est ça qui se trame dans nos profondeurs. D'ici, j'entends tous les courants qui chavirent les océans. Il y a la pression qui monte, les frissons. Ça te fait des agitations qui s'embrassent en remous. Toutes les vagues du rivage. La perspective d'une submerge est imminente et... Myson ?
Et ça ? Qu'est-ce que c'est ?
Ah, la scaphandrière.
Jamais lu.
C'est pour... devancer l'englouti.
Mais tu crois vraiment que...
Oui, Myson.
Je...
Attends. Tiens.
Ça aussi, c'est un cadran du temps qui vient.
Presque. Boussole. C'est pour ton explorance. Avec ça, tu quittes le labo et tu longes le bord de la mer.
Quoi ? Non !
Tu vois la rose des vents, comme sur tes cartes.
Tu viens pas avec moi.
Je l'ai déjà fait. C'est mieux que tu ailles seule.
Mais j'aimerais le barographe, ses aiguilles de poids, de mesure, je voudrais
bien... Note ta position. Pour pouvoir revenir, faut que t'étudies le terrain.
Ah oui, très juste.
Après, tu barographeras tout ce que tu veux.
Oui. Et j'ai pas franchi le limité pour m'enfermer ici.
Arrête pas tes recherches maintenant.
Je retourne dans l'aventureuse.
Donc, pour resituer, parce que c'est pas forcément évident de tout suivre, Eloane, c'est ce personnage qui vit dans l'Horizon et dans son labo. Cole s'est construit dans une espèce d'énorme épave déposée par la mer sur le rivage. Et Myson, c'est ce personnage qui a quitté la maison au tout début de la pièce et ce par quoi le départ où commence toute l'intrigue de la déferle. Donc ces deux personnages se rencontrent et ce qui vient se rencontrer avec, avec ce moment-là, c'est deux rapports très très différents à la catastrophe et à l'urgence. Alors dans la pièce de théâtre de La Déferle, la catastrophe est assez floue, pas très bien définie et c'est justement ce qui nous intéressait avec Malvina quand on a écrit le texte, c'est de ne pas venir définir quelque chose qui serait arrivé. Donc on se situe dans une dystopie, dans un monde qui semblerait post-apocalyptique, mais en même temps, à aucun moment, on vient définir ce qui s'est passé pour que le monde ressemble à ce qu'il ressemble dans La Déferle. On part plutôt du principe que plusieurs catastrophes se seraient succédées et que très longtemps, très loin, plus tard, on se retrouve avec ce monde-là qui tombe des mains de tous les mômes. Et en fait, à l'intérieur même de ce monde-là, on se retrouve avec des tonnes d'urgences et des tonnes de catastrophes à gérer en permanence. Donc je vous ai déjà dit quelques mots du collectif et de l'incapacité du collectif à se saisir ensemble des problèmes qui survenaient au sein de la maison, jusqu'à en fait être complètement dépassé et débordé, et du coup inondé jusque dans le mi-temps, dans la soupente. Et ça entraîne des comportements aussi individuels, par exemple celui d'Eloane. En fait, Eloane a vécu dans la maison, sans vous en dire plus, elle a vécu dans la maison et a eu à un moment donné un besoin de fuite parce que c'était plus possible pour ce personnage de gérer cette incapacité collective à se saisir des problèmes de la maison. Hall a fui la maison et en fait Hall se retrouve dans l'Horizon et ce Cole découvre dans l'Horizon lui fait peur au point d'imaginer qu'une catastrophe imminente pourrait survenir. Et du coup Hall décide à ce moment-là, mais seul, de s'en saisir et Hall va venir construire le laboratoire à cette fin-là dans le but de documenter, de répertorier, de surveiller, d'observer la mer et tout ce qui s'y joue et la crainte d'une submerge imminente qui, selon Hall, est imminente en tout cas. Et du coup, on a plein d'individualités qui se rapportent de façon très très différente à cette urgence. Et on sent le sentiment d'urgence qui anime tous les personnages, mais qui s'en saisissent véritablement différemment. Et pour Myson, son personnage a quelque chose de très positif. C'est plutôt un personnage qui va être très solaire, si on peut dire ça comme ça, parce que elle est dans l'urgence de quelque chose, elle est dans l'obsession de quelque chose, de la même façon que Joe qui est dans l'obsession du bleu, Maïson est dans l'obsession de cartographier, de répertorier, de comprendre où sont tous les mômes. Mais Maïson a choisi l'action, elle choisit de partir, et c'est pas quelque chose qui lui fait peur, elle part dans l'explorance. Et finalement, elle a un rapport qui est plutôt constructif à cette urgence de se retrouver et de comprendre ce qui se passe autour d'elle et d'Ol. Freedom, il a un rapport à l'urgence qui est complètement désorganisé, complètement brouillon. Il est peut-être le personnage qui est le plus victime, entre guillemets, de cette perte de repères temporels. Et ça l'aide pas du tout à être dans l'action. Et pourtant, il a des moments de fulgurance, de lucidité, qui va lui permettre de réagir très rapidement, même si c'est des réactions un peu étranges. Et il nous reste assez peu de temps. Du coup, voilà en tout cas pour cette gestion de la catastrophe. Et ce qui émerge aussi au final de toute la pièce et de toute l'intrigue, c'est que certains personnages, et notamment celui d'Eloane, viennent cristalliser toute leur attention sur une catastrophe à venir, alors qu'en fait, ce qui se passe est plutôt sous leurs yeux. Et voilà, là, faut vraiment pas que j'en dise plus, parce que sinon, ça sert plus à rien, vous aurez même plus besoin de venir voir la pièce de théâtre, c'est pas le but. Parce que oui.
Justement.
Justement.
On y vient.
La Déferle n'est pas une pièce de théâtre radiophonique.
Comme pas vous avez que. Pu vous en rendre compte.
Donc là, on vient de vous proposer une plongée radiophonique dans l'univers de La Déferle. Vous avez pu découvrir les voix des comédiennes, vous avez pu découvrir la fougue de tous ces personnages qui se dessinent et les ambiances sonores de tous les espaces de la maison. Et pas que, de tout leur monde. Mais si vous voulez nous retrouver sur un plateau de théâtre, encore en voix, en lumière, en scénographie, on joue début mai au Théâtre Carré 30 à Hôtel de Ville, le jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 à 20h et le dimanche 8 à 15h. Et vous pourrez nous découvrir sur la scène.
Et pour les réservations ?
Et pour les réservations, il faut voir avec le Théâtre Carré 30 que vous pouvez taper sur Internet. Et je crois que les réservations peuvent se faire soit en ligne, soit par téléphone. Et j'ai pas le numéro de téléphone sous les yeux, mais vous trouverez toutes les infos sur Internet. Voilà, merci beaucoup au Théâtre de la Gamelle.
Eh bien, merci beaucoup Camille, Malvina, Clémence. C'était le Théâtre de la Gamelle sur Radio Canu 102.2. Et on vous dit à très bientôt.
Au revoir.
Merci.
À bientôt.
Et très bonne journée.